Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour pour parler de football. Avec aujourd'hui les hirondelles qui font le printemps au Burundi. La première qualification de l'équipe nationale est un événement à l'échelle du football burundais. Le Burundi rejoint donc la Mauritanie et Madagascar pour ce qui est de participer pour la première fois à une phase finale de CAN. Et nous reviendrons sur cette belle aventure d'une sélection invaincue en éliminatoire avec le sélectionneur des hirondelles, Alain-Olivier Nyungenko. La National Mannschaft vainqueur à Amsterdam, les Oranges battus en dernière seconde. L'équipe d'Allemagne va-t-elle mieux pour autant? Joachim Löw a gagné peut-être un sursis et nous verrons comment va cette équipe d'Allemagne. Quant aux Pays-Bas, on a surtout vu Memphis Depay, Memphis Depay sous son meilleur jour. La Martinique à la Gold Cup 2019. L'équipe des Antilles s'est qualifiée au cours du week-end. Le football des Antilles, tout ce qu'il a apporté aux Bleus, nous en parlerons dans Radio Foot International et nous en parlerons notamment grâce au manager de cette équipe de Martinique, lui aussi, martiniquais, Frédéric Piquionne. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être dans Radio Foot International. Alors évidemment, comme vous êtes là aujourd'hui, on en profitera pour parler de cette équipe qui est bien
étonnante
et qui est un peu loin géographiquement. Graphiquement, mais pas loin du cœur, n'est-ce pas? Et vous serez là pour la défendre. Il y a à vos côtés Patrick Juillard du Foot Africa 365.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Bonjour Patrick. Et puis Shérif Guémour. Bonjour Shérif.
Bonsoir Annie, bonjour à tous.
Vous nous parlerez surtout de paille, n'est-ce pas?
Ce que vous voulez.
Je sais bien, mais un peu chacun ses spécificités en plus du reste. Radio Foot, c'est parti.
Voilà la balle, voilà la balle. Oh, c'est la balle, c'est le qui donne à papi, papi, qui donne à Gaël. Oh, attention, Saïd Beraïl, non, Saïd Beraïl qui donne à Fiston. Ah, Fiston, attention. Manager, papa, Tchernobyl, à la ligne.
Le Burundi, tout à sa joie autour de son équipe de football, les hirondelles s'envoleront vers le Caire en juin prochain pour participer donc pour la première fois de leur histoire à la phase finale de la CAN. Une phase éliminatoire parfaite avec zéro défaite et des matchs nuls contre les favoris ou grosses équipes comme on dit. Et c'est d'ailleurs un match nul obtenu à Bujumbura contre le Gabon qui a qualifié ces hirondelles grâce à un but du milieu de terrain Cédric Amissi. Et pour évoquer ces hirondelles, nous sommes en ligne avec l'un des artisans de cette qualification historique, avec le sélectionneur du Burundi, Alain-Olivier Nyungenko. Bonjour.
Bonjour, c'est Alain-Olivier Nyungenko.
Nyungenko, pardon. Alors,
Nyungenko, oui.
D'accord. Merci beaucoup. On va apprendre à mieux le prononcer durant toute cette compétition. Une question d'abord. Est-ce que vous êtes encore tout à cette joie d'être qualifié? Est-ce que ça a changé un peu votre quotidien dans les rues de Bujumbura?
Oui, ça a changé parce que la qualification, c'est la première qualif qu'on a eue. Et dans tout le pays, c'était une fierté totale. Il y avait, même aujourd'hui, il y a des gens, quand je me promène dans la rue, tout le monde me dit félicitations, coach. Je dis toujours, j'ai dit beaucoup de merci. Et la fête continue, mais il ne faut pas oublier qu'on va affronter, et on va commencer les choses de plus sérieuses. Parce que, comme on a dit, c'est la première qualif. Et bientôt, on va commencer les préparatifs, quoi.
Oui, bien sûr. Une question à vous, en tant que sélectionneur. Quand est-ce que vous avez commencé à croire à cette qualification? Est-ce que c'est dès la deuxième journée, lorsque vous arrivez à arracher un match nul, lorsque vous jouez les Panthères du Gabon à Libreville? Ou est-ce que c'est quand la direction de la Confédération africaine de football a décidé que finalement la compétition ne serait plus à 16 équipes, mais à 24?
Oui, mon histoire commence dès que j'étais joueur d'Olinamba Junior. J'étais parmi les joueurs qui ont qualifié les Olinamba Junior, c'était en 1995. J'ai commencé, quoi, quand on a éliminé la Grande Égypte à ce moment. Et après, je suis devenu entraîneur, c'était en 2002. J'ai commencé à dire, mais pourquoi pas, nous, on a fait ça dans l'équipe junior. J'étais adjoint des différents entraîneurs, il y avait des Arabes, il y avait des Blancs. J'étais toujours adjoint, mais j'avais cet esprit de pouvoir arriver à ce stade, quoi. C'est pour ça, quand on a commencé le premier match contre le Soudan, je disais, mais le Soudan, c'est un pays qui vient en guerre, il fallait et battre le Soudan, parce qu'on a vu que les joueurs soudanais, ils ne sont pas forts. Dès le premier match, on a commencé à croire à ça. Mm-hmm. Mais il y a l'arrivée de deux joueurs qui jouent à l'étranger, c'est professionnel, Ibrahim Saïdo et Gaël Bigirimana, qui nous ont apporté quelque chose de plus. Parce que quand ils jouent un match, ils nous disent, mais on ne joue pas un match pour s'amuser, on joue un match pour gagner. C'était cet esprit qu'ils ont manifesté aussi dans les différents joueurs. Ils ont dit, mais on peut gagner. Et le premier match contre le Gabon, ils étaient là avec motivation. Vraiment, je dirais, ils ont motivé. Et les autres joueurs, surtout qui jouent en Afrique, il y a les autres qui jouent en Arabie Saoudite, dans le continent asiatique. Et c'est là où on a commencé avec l'égalisation de l'équipe gabonaise. On a commencé à y croire. On dit, mais pourquoi pas, nous, on ne peut pas arriver. Ils ont les pieds, ils ont les deux pieds comme nous. Et on est parti jouer le match contre le Mali. Le Mali, c'était difficile.
Et vous avez fait match nul.
C'était difficile dans le match aller. Oui, on a fait match nul. On a dit, maintenant, vraiment, il faut se battre. Tout le monde doit se mettre au travail. Et heureusement, on avait un bon groupe. Ils se parlaient. Comme vous savez, on n'avait pas de grand staff. On essaie de se comprendre entre nous. Et c'est là que je dirais, c'est là où c'est devenu cette qualif.
Oui. Ce qu'on peut remarquer, Alain Olivier, dans votre équipe, c'est que vous dites qu'il y a ces deux joueurs qui sont venus, qui ont changé l'état d'esprit. Il y en a effectivement peu qui jouent du côté de l'Europe. Hein. Il y en a en Écosse, aux Pays-Bas ou en Championship en Angleterre. Mais d'une façon générale, ce sont essentiellement des joueurs qui évoluent sur le continent africain.
Oui, continent africain, il y a des joueurs en Afrique du Sud aussi, c'est un grand championnat. Il y a aussi ceux qui jouent au continent asiatique, comme le Cédric là qui a marqué son but.
Oui. Oui. Patrick Juillard a une question pour vous.
Oui, bonjour coach, oui. Et félicitations pour cette brillante qualification, puisqu'il faut souligner que le Burundi a terminé avec la meilleure attaque de ce groupe, un groupe où quand même figuraient le Mali et le Gabon. Donc ça, c'est vraiment une vraie performance, et il faut notamment féliciter, on a déjà cité Saïdo, Beraino, Cédric Amissi, mais il faut aussi féliciter Fiston Abdulrazak qui était tout proche de finir meilleur buteur des éliminatoires avec 6 buts.
Oui.
Maintenant,
oui.
J'ai une question, j'ai regardé vos derniers matchs et je trouve, oui. Je vais peut-être être un peu direct, mais je trouve que la défense n'est pas au niveau de l'attaque. Comment allez-vous essayer d'améliorer cet aspect du jeu d'ici la CAN?
Et oui, comme dit, c'est vrai, la défense n'est pas au niveau de l'attaque, mais je dirais on a des lacunes des côtés des arrières. Et comme on n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux pour pouvoir traverser ces lacunes, c'est là qu'on va on va chercher des matchs amicaux avant d'y aller à la CAN, parce qu'il y a une proposition qui est en train de se faire. C'est ça qui va m'aider. Et on va faire un tournoi d'ici en Afrique de l'Est. Comme vous savez, c'est 4 équipes qualifiées. On va essayer de faire ce tournoi pour les préparatifs, justement, et pour enlever aussi tous ces rakins qui sont dans la défense.
Une question aussi, coach, au sujet de, justement, Patrick, vous l'évoquiez, Fiston Abdulrazak, c'est votre attaquant vedette, il joue à la JSK Kabylie, donc il joue du côté du football algérien, il a inscrit 6 buts, il est dépassé par le Nigérian Ondio Igalo, voilà,
oui.
Qui a marqué 7 buts. Comment définiriez-vous ce joueur qui finalement a été l'une des vedettes de ces éliminatoires? C'était inattendu, peut-être?
Non, Fiston, vraiment, il n'y a rien d'étonnant, parce que c'est quelqu'un qui a toujours envie de marquer des buts. même quand il jouait, j'étais son entraîneur dans l'équipe Lidl Ligue. Quand il ne marque pas, il n'est pas content. Il devait toujours marquer. Il travaille beaucoup. Vraiment, quand tu es avec Fiston, tu souffres en tant que défenseur. C'est quelqu'un qui dérange beaucoup. Et c'est pour cela, quand je vois que Fiston est à Sibi, pour moi, c'est peu parce qu'il peut en avoir un peu plus. Et il reste seulement à savoir les matchs qu'il joue en Algérie. Mais je sais que c'est un buteur.
Patrick.
Oui, coach, on sait que au Burundi, le chef de l'État est un grand amateur de football, il y joue même, il a rendu visite à l'équipe, oui, à la veille du dernier match. Dans quelle mesure, oui, ce soutien des autorités peut-il aider l'équipe en vue de la CAN? Et est-ce qu'au contraire, ça pourrait pas interférer dans la préparation?
Non, parce que comme vous savez, notre chef d'État, son Excellence Pierre Nkurunziza, c'est quelqu'un, comme vous dites, qui aime le football. C'est lui qui a commencé la politique de la construction des stades. On a maintenant à peu près 4 ou 5 stades, des bons stades qui, avec un bon gazon. Et c'est là où ça a commencé, tout ce qu'on est en train de voir maintenant. Il a commencé il y a au moins plus de 10 ans. Maintenant, on vient d'avoir des fruits après 10 ans et plus. Je pense que c'est quelqu'un qui nous a invités même la veille. Il a dit non, il faut aller comme à la guerre. Il faut vraiment s'y mettre. Il faut gagner son match. On est chez nous. Je vous encourage. Et après, on va se voir. On va parler un peu de tout ce match.
Une dernière question, Alain Olivier, sur cette CAN et cette compétition, cette phase finale en Égypte. Alors, vous serez au tirage au sort le 12 avril prochain du côté du Caire. Comment envisagez-vous cette compétition? Est-ce que participer, ça sera déjà l'essentiel, ou est-ce que l'objectif, c'est au moins de sortir d'une poule?
Non, vous savez, quand vous allez dans une telle compétition, je veux bien, il y a des objectifs, mais il faut toujours y croire, il faut travailler, il faut se battre, il faut gagner s'il le faut. Ce n'est pas dit que c'est la première fois qu'on a participé à ce genre de compétition, mais on a déjà participé à d'autres compétitions, c'est-à-dire, je sais bien que c'est des joueurs d'un autre niveau, la majorité qui jouent en Europe, mais on va essayer de travailler de telle manière qu'on ne sortira pas, on va sortir la tête haute, quoi. C'est-à-dire, il faut travailler, il ne faut pas dire qu'il faut y participer seulement, pourquoi pas ne pas aller passer la phase des poules. La première phase, ça sera vraiment un objectif de passer la première poule, et on verra la suite.
Est-ce que des exemples d'équipes qui se sont illustrées lors d'une première participation, je pense au Cap-Vert en Afrique du Sud en 2013, qui avait réussi à aller jusqu'en quart de finale, est-ce que ce sont des exemples qui vous inspirent?
Oui, bien sûr, ce sont des exemples qui nous inspirent parce que, et comme vous savez, on a des mêmes cours. C'est lui qui apprend. La FIFA a donné l'opportunité de faire participer au cours à tout le monde. Seulement, il faut prendre ce qui est l'essentiel, il faut ramener dans ton pays. Mais sinon, le football, on l'entend de la même façon. C'est sur le terrain qu'il y a des différences à cause de la tactique, de la technique de chaque équipe. Mais sinon, on va essayer de faire mieux que la Cap-Vert.
Merci beaucoup, Alain-Olivier Nyungenko.
D'avoir
été en direct avec nous dans Radio Foot International. Et puis, bonne chance et on se recroisera à l'occasion désormais de cette phase finale de la CAN 2019. Merci beaucoup.
Merci, à plus.
Bonne chance aux Hirondelles. Merci. Autres équipes sur lesquelles on s'était pas encore arrêté à la suite de ces éliminatoires, on va s'y arrêter un petit instant, c'est le Sénégal et le Mali. Ils ont abordé cette sixième journée déjà qualifiée, mais les deux ont gagné assez largement, l'une notamment face à Madagascar et terminant premier de son groupe. En tout cas, ces deux équipes ont joué hier un match amical au Stade Senghor. Alors, je ne sais pas si on peut dire sur la pelouse du Stade Senghor, Patrick.
Le mot n'est pas forcément approprié, on va dire sur l'aire de jeu, pour être neutre, parce que j'oserais pas appeler ça pelouse.
Oui, on a entendu le sélectionneur du Mali râler contre le mauvais état
de
ce stade. En tout cas, la rencontre s'est terminée par une victoire des Lions de la Teranga sur le score de 2-1. Sadio Mané a été capital. Il a marqué le but et inscrit une passe décisive. Et d'ailleurs, Aliou Cissé, alors déjà en mode de préparation de la CAN, hein, eh bien était plutôt satisfait. Aliou Cissé au micro de Babacar Fall et le but de Sadio Mané au micro de nos confrères de la RTS.
Et c'est parti. C'est Sadio Mané. Sadio Mané qui passe en dribble. Le bien joué, Sadio Mané. La frappe de Sadio Mané, c'est le but. Sauver le nom du Sénégal à un moment crucial où l'équipe sénégalaise était menée.
On a sélectionné 25 joueurs. Le but, c'était de les faire jouer sur ces deux matchs-là. J'ai réussi à faire jouer pratiquement tout le monde et ça, c'est intéressant. Comme je vous le dis, l'ossature est là. Maintenant, comme vous le savez, entre le mois de mars et le mois de juin, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, priez que nos joueurs soient en bonne santé, qu'il n'y ait pas de surprise au moment où on publie la liste. Et qu'il n'y a pas de blessure et que tout le monde se sente bien pour qu'on puisse partir avec la meilleure équipe du Sénégal.
Partir avec la meilleure équipe du Sénégal. Alors d'abord, ce derby, Patrick Juillard, c'était un peu tendu, hein.
Alors c'était un match haché. Bon, la pelouse n'aidait pas puisque beaucoup de passes n'arrivaient pas. Il y avait beaucoup de rebonds irréguliers. Il y a eu beaucoup de coups pour un match amical, un nombre inhabituel de fautes. Et puis tout s'est décidé dans le dernier quart d'heure. Après les changements, souvent dans ces matchs amicaux, les changements ont tendance à un petit peu désorganiser. Et d'un autre côté, c'est des joueurs frais qui rentrent contre une équipe un peu fatiguée et qui se bat peut-être un petit peu moins, qui est un peu moins rigoureuse que dans un match officiel avec un enjeu. Et donc ça laisse des brèches et c'est ce qu'on les Maliens ont cru exploiter d'abord. Et finalement, le Sénégal, grâce à un grand Sadio Mané, a réussi à remettre un peu à faire parler la hiérarchie, puisque bon, le Sénégal est un des favoris de la CAN. Le Sénégal était à la Coupe du Monde. Mm-hmm. C'est une des équipes africaines qui a été la plus présentable, disons, pendant cette Coupe du Monde. Donc finalement, c'est assez logique. Après, ça manque toujours un peu, le Sénégal manque toujours un peu d'efficacité. Il faut qu'il travaille encore là-dessus.
Frédéric Piquen, évidemment, quand on a Sadio Mané dans ses rangs, et même si on le fait rentrer, non pas au départ ou à la mi-temps, mais après, finalement, c'est quand même toujours l'atout maître dans une équipe.
C'est l'atout numéro un de cette équipe du Sénégal, de l'attaque sénégalaise. Maintenant, c'est vrai, en parlant avec Aliou Cissé, que j'ai rencontré plusieurs fois, il cherche quand même le numéro 9 pour marquer les buts et c'est ce qui manque aujourd'hui au Sénégal. Alors peut-être qu'il va le trouver sur certains joueurs. J'en ai pas en tête mais voilà, je pense que aujourd'hui s'il n'arrive pas à trouver ce buteur, Sadio Mané sera regardé et ça sera l'atout numéro un du Sénégal.
C'est vrai, ce que dit Frédéric est vrai, mais c'est paradoxal puisque si on regarde un peu les classements des buteurs des grands championnats en Europe, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui ont des bonnes stats. Hein. Bon, Moussa Konaté qui a marqué le deuxième but hier soir, qui joue à Amiens. Bon, là, il a été blessé 3 mois, mais il a des bonnes stats. On a Mbaye Diagne qui est buteur, enfin en tête du classement des buteurs en Turquie, qui a été transféré à Galatasaray. Il y en a pas mal, mais c'est vrai qu'en équipe nationale, ils n'ont pas trouvé la bonne carburation pour intégrer un attaquant. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs de côté, c'est-à-dire des joueurs comme Mbaye Niang ou Sadio Mané, c'est plutôt des joueurs qui font des différences sur les ailes, mais parfois, ça manque un peu de... C'est pas assez fluide, mais pourtant, c'est un super collectif, l'équipe du Sénégal.
Chérif, cette équipe sénégalaise, on l'avait vu, alors un peu déçu hein, d'être éliminé par le Cameroun lors de la CAN 2017 au Gabon. Ensuite, on l'a vu mondialiste. Est-ce que le fait quand même de... Est-ce que vous avez l'impression d'une équipe qui monte en puissance? Elle a fait des très belles éliminatoires et elle avait fait des belles éliminatoires pour ce qui était la Coupe du Monde.
Bah moi c'est quand même pour moi c'était la meilleure équipe africaine à la dernière Coupe du Monde de très loin. Bon, on sait comment ils se sont fait éliminer. Moi c'est une équipe que je suis, pour moi favoris sont vraiment, pour moi c'est une évidence qu'ils font partie des favoris et on attend la fameuse marche d'après. Moi je vois pas gros ce qui leur manque, peut-être un vrai numéro 9 en effet, mais moi je trouve ça bon dans toutes les lignes. Donc moi, c'est une équipe... En plus, quand on parle d'équipe africaine, on parle souvent d'un projet à court terme, à moyen terme, à long terme. Moi, je pense que c'est parmi les mieux armés pour continuer à aller de l'avant.
Le projet est à long terme, en tout cas, en apparence, parce qu'à lui aussi, ça fait quelques temps qu'il est là. Et qu'il
raison
est
plus. Raison plus, on fait confiance aux sélectionneurs.
Un travail sur le long terme, effectivement.
Moi, pour résumer, ce qui leur manque, c'est pas grand-chose et beaucoup à la fois. Je trouve qu'ils ont du mal, parfois, à tuer des matchs. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à marquer le but qui les mettrait à l'arbitre, et ils peuvent se faire reprendre bêtement. Et on l'avait vu à la Coupe du Monde, où ils ont, la plupart du temps, ils étaient en position d'être qualifiés, mais au final, ils sont éliminés pour un nombre de buts. Alors, tout ça parce qu'ils n'ont pas su être efficaces au moment clé, et ça se travaille, il faut trouver la bonne carburation. Je pense qu'il peut y arriver, mais c'est un défi qui est encore devant lui. Il n'a pas encore trouvé, pour moi.
Où on attend le Sénégal, c'est dans le rôle des ténors de l'Afrique. Ils n'ont pas encore ce statut du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Ils n'en sont pas encore là. Le défi du Sénégal, c'est d'entrer pas via la CAN, ensuite après on verra la Coupe du Monde, mais déjà arriver, voilà.
Déjà gagner une CAN, quoi.
Exactement. Déjà, voilà, c'est ça. C'est là qu'on les attend. Les ténors de l'Afrique, ils y sont pas encore. Ils sont pas loin, à mon avis.
Frédéric? Vous trouvez aussi que cette équipe, il lui manque encore quelque chose, parce qu'on connaît son effectif. Elle a déjà eu des grands joueurs de l'histoire du football africain, mais c'est vrai que les autres grands joueurs africains, évidemment, on pense à Eto'o, par exemple.
Didier Drogba, Eto'o.
Alors Drogba, il n'avait pas gagné cette fameuse CAN, mais il a disputé des finales en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que on a l'impression que le Sénégal est proche de quelque chose, mais
Il manque une petite marche, il manque une victoire pour.
Il leur faut un trophée.
Il leur faut un trophée pour, on va dire, pour conclure un petit peu ce travail, parce que aujourd'hui, dans les rangs du Sénégal et dans le staff, il y a quand même beaucoup d'anciens joueurs qui ont gagné aussi des choses, que ce soit en France ou à l'étranger, et cet apport-là, je pense qu'il est bénéfique pour le Sénégal. Ils n'ont pas été chercher très loin. Seulement un joueur qui a fait une Coupe du Monde 2002, qui est sélectionneur et qui a battu la France. Donc il sait comment gagner. Il a gagné beaucoup de choses aussi. Il a fait des grands matchs et tout son staff qu'il a construit autour de lui est dans le même cas. Donc je pense que oui, effectivement, le Sénégal, il lui manque juste un trophée pour faire partie, en tout cas, des grands d'Afrique.
Et puis on en parle souvent dans Radio Foot, c'est aussi tous ces centres de formation, Génération Foot, Sacré-Cœur, Diambar, bien sûr, qui alimentent aussi cette équipe nationale. Patrick, un petit mot aussi sur le Mali. Alors le Mali, les Aigles du Mali, les dernières CAN, sauf la dernière, mais les autres, ça avait été plutôt des belles campagnes. Et là, on a l'impression, en plus, une équipe toujours qui a en soutien ses classes inférieures, les plus jeunes. C'est aussi ce qui donne de la force à cette équipe. Du Mali.
Vous faites bien de le souligner, parce que je trouve que le Mali, dans son équipe A, s'est servi du travail fait par les équipes de jeunes pour un peu changer son ADN et son style de jeu. Le foot malien, jusque dans les années 2000, c'était un football très physique, rugueux, qui mettait des brins, qui allait. Là, maintenant, il y a plus de variété, il y a plus de finesse, il y a plus de profils différents dans l'équipe. Et je trouve ça intéressant. C'est un foot en mutation. Alors que bon, le Sénégal, c'est assez bien défini. Le Mali est une équipe en mutation, et le résultat, je suis curieux de le voir, parce qu'il y a vraiment des joueurs de qualité dans cette équipe.
Voilà pour ce qui est des équipes africaines. On reviendra demain sur l'une de ces équipes qualifiées, le Bénin. Jimmy Adjovi-Boko sera avec nous pour évoquer la qualification du Bénin. Il était d'ailleurs à Cotonou pour assister à cette qualification.
The majority of Wembley is loving this. It's five.
En zo wordt het een hele, hele pijnlijke avond voor Denemarken.
Spelers bij San Nacional, Danilo, Asus Mungolo, Korkum is alle de skinners.
Entre les affiches peu attrayantes de ces deux journées d'éliminatoire en Europe, je citerai Malte, Espagne, Italie, Liechtenstein, ou encore même Moldavie, France, où vraiment les affiches étaient déséquilibrées. Il y a eu des super matchs. Et par exemple, ce Pays-Bas, Allemagne, entre deux sélections qui s'étaient affrontées en Ligue des Nations, déjà en octobre, novembre dernier, et on s'en souvient, à l'automne, elles avaient mis à jour, les failles de la Nationalmannschaft et toute cette crise qu'on avait vue apparaître en Russie. On avait vu aussi éclore, eh bien, le talent de ces jeunes Néerlandais, confirmé avec l'Ajax en Ligue des Champions. Cette fois donc les Allemands, eh bien les Allemands sont quand même allés arracher la victoire du côté de l'Arena d'Amsterdam. Ils ont gagné par 3-2. Surtout le but de la victoire est venu à la 89e minute. Est-ce que c'est une victoire presque injuste selon vous, Chérif Guémour, ou logique?
Non. Plus une certaine logique. C'est une victoire méritée.
Des Allemands.
Oui, c'est une victoire méritée des Allemands. Enfin, à titre personnel, moi j'avais.
Ça a été bizarre quand même, comme match quand même. Ils gagnent 2-0 à la première mi-temps. C'est un match dominé par l'Allemagne et ensuite dominé par les Pays-Bas. Et finalement, c'est le coup de poignard.
Je crois que c'est le troisième match d'affilée qu'on s'enquille entre les Allemands et les Hollandais. C'est pratiquement toujours le même scénario.
Ah bah, l'autre jour, c'était 3-0 en faveur des Pays-Bas quand même.
Oui, mais c'est les Allemands qui avaient bien pris, le match à leur compte. Avant de gagner, ces deux équipes, on a basculé de génération en fait. On est passé côté hollandais de la génération des Snyder, Van Persie, Robben, et côté allemand, on a abandonné un peu la génération des Khedira,
ouais, Müller, des champions du monde,
C'est deux équipes qui cherchent, c'est deux équipes très très jeunes, c'est deux équipes qui ont énormément de talent, qui n'ont pas encore vraiment de leader, qui ont une identité de jeu, ça c'est bien parce que ça donne les matchs qu'on a pu voir. Et le petit avantage, ça reste quand même pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne a joué toutes les compétitions internationales, pas les Pays-Bas.
Oui, et ils n'étaient pas à la dernière Coupe du Monde, effectivement.
Et je pense qu'on s'est un peu mépris sur cette équipe d'Allemagne qui, pour moi, a fait une bonne Coupe du Monde, qui s'est laissée surprendre par le Mexique, donc qui après a ramé contre la Suède et ensuite contre la Corée, où ils ont tout donné. Et à mon avis, on les a vus beaucoup plus bas qu'ils n'étaient. Comparé aux Pays-Bas, les Pays-Bas reviennent encore plus loin. Donc c'est bien de les retrouver à ce niveau-là, mais c'est quand même deux équipes qui cherchent, avec pour moi un avantage pour l'Allemagne, parce que quand on voit la première mi-temps qu'ils font, je suis désolé, mais le jeu qu'ils déploient, c'est du haut niveau. Donc pour moi, c'est une victoire logique. Je suis un peu déçu, mais pour moi, c'est une victoire logique.
Frédéric Piquion, cette équipe d'Allemagne, on voit que Joachim Müller, alors avec un peu toute la polémique qu'il y a eu autour de ses nouveaux choix, mais a amené des jeunes, et on pense à la Coupe des Confédérations, où il y avait déjà certains de ces joueurs qu'on voyait apparaître, mais notamment là, on a vu Leroy Sané.
Ah bah Leroy, il joue quand même à Manchester City et en ce moment il est en feu. On l'a vu sur les matchs de Ligue des Champions où il a marqué des buts. Il a joué contre son ancien club Schalke où il a marqué à l'aller et au retour. Mais c'est un garçon qui doit être titulaire indiscutable dans cette équipe. Et
qui bizarrement n'était pas allé à la Coupe du Monde. On s'en souvient des problèmes que ça avait
causé. Ouais. Et le fait de rajeunir l'équipe, je pense que c'est une très très bonne chose parce que il y a peut-être des joueurs un peu vieillissants qui ont certes l'expérience, mais maintenant il faut donner peut-être la chance aux jeunes. Et sur ce match-là, en tout cas, il y a eu de très belles choses de la part de cette équipe d'Allemagne.
Patrick Julien.
Ce que disait Chérif sur la Coupe du Monde est vrai, c'est-à-dire que l'Allemagne, dans le contenu, a plutôt fait des matchs intéressants, mais ils ont pâti d'un manque total d'efficacité.
Depuis l'Euro 2016 avec la blessure de Gomez, ils n'ont pas retrouvé de neuf.
Et je me rappelle d'une émission assez animée ici à laquelle j'avais participé, où Xavier Barré s'était acharné à nous montrer que l'Allemagne, en prenant les classements des buteurs de Bundesliga, n'avait plus de buteurs de haut niveau, qu'à chaque fois, effectivement, les meilleurs buteurs, c'était des étrangers, c'était Lewandowski, c'était Aubameyang, cette année c'est Haller, le français de l'Eintracht Francfort, et d'autres.
Alcacer qui avait bien commencé.
Alcacer,
aussi.
Voilà. Et les Allemands vont chercher des joueurs à l'étranger, et c'est un vrai problème. Et il faut qu'il retrouve peut-être cette capacité qu'avait à une époque l'Allemagne à marquer de n'importe quel par n'importe quel joueur.
C'est
la force ça a l'air de redevenir ça. Maintenant, je les jugerai pas sur un seul match
parce qu'en fait,
sur ce match, il y a vraiment eu des périodes très marquées où l'Allemagne jouait parfois très bien, parfois sortait totalement du match et abandonnait le ballon.
Ils sont jeunes.
Ils n'arrivent pas encore à avoir à imprimer vraiment un tempo sur
90 minutes. Exactement.
Mais effectivement, on sent que quelque chose est en train de redémarrer. Je pense que la décision de se séparer des cadres dont Thomas Müller en attaque est une bonne décision. Il faut éviter que les équipes deviennent des équipes de sénateurs.
C'était un peu ça. Frédéric Piquion, est-ce que selon vous, Joachim Löw s'est acheté un peu de temps et de sursis pour réagir et pour la bâtir, cette équipe? Parce qu'il est là depuis 13 ans. Ils l'ont confirmé à l'issue de la campagne de Russie. Et finalement, au début, ça avait un peu mal commencé en Ligue des Nations. Ils sont descendus de A à B. Est-ce que selon vous, quand même, c'est encore l'homme du moment?
Moi, je pense que si c'était pas l'homme du moment, il l'aurait pas reconduit, tout simplement. Je pense que les Allemands, ils sont tellement rigoureux qu'ils savent très bien que Joachim Löw leur a présenté sûrement un projet, même à long terme, sur du court, même du moyen et sur du long terme, avec cette capacité aussi à réfléchir sur comment
se renouveler.
Renouveler l'équipe et la rajeunir. Donc, pour moi, c'est l'homme de la situation. Ça fait 13 ans qu'il est là. Il connaît parfaitement bien le championnat et les joueurs qu'il a entre ses mains. Et il continuera comme il a commencé.
Alors en face, hein, il y avait le talent, le style, hein, entrevu avec l'Ajax, qui quand même imprime aussi l'équipe nationale des Pays-Bas. Mais on a vu un joueur, nous on le connaît, hein, vous le connaissez, il piquionne du côté de Lyon, parce que là il flambe un peu moins, mais là c'était un Memphis Depay en feu, meilleur buteur d'ailleurs de ses journées. Hein, il a terminé avec en tête des performances de l'indice individuel de l'UEFA, 3 buts et 3 passes décisives. Et son sélectionneur hollandais, on va l'écouter, Ronald Koeman, parce que c'était d'ailleurs avant le deuxième match, mais lui il le suit évidemment quand il est sous le maillot des Lyonnais, et il a son explication quant à ses résultats un peu inégaux quand il est du côté de Lyon.
Memphis a montré qu'il était heureux de retrouver l'équipe nationale. Je suis allé à Lyon pour le voir après le match face au PSG, j'y suis resté un jour de plus pour le voir à l'entraînement et passer du temps avec lui. On a parlé de sa situation à Lyon, mais cela restera entre nous. Moi, je suis concentré avant tout sur l'équipe nationale. Je suis content de la manière dont il évolue en sélection, et en plus, il a toujours une marge de progression.
Alors, il s'était un peu ouvert quand même sur cette situation à Lyon, et en disant notamment, on ne fait pas jouer à son poste, et donc on récolte ce qu'on sème. Vous êtes d'accord, Frédéric Piquion?
Bah généralement oui bien sûr je suis d'accord, puisque
vous pensez que Bruno Genesio l'utilise mal et que c'est pour ça qu'on le voit pas sous son meilleur jour.
Bruno Genesio il l'utilise de façon sur un côté, il me semble, sur le côté gauche, et lui il aimerait bien être plus réaxé, puisque l'année dernière, même pendant l'année, lorsqu'il a marqué des buts et décisif pour l'Olympique Lyonnais, il était plutôt dans l'axe. Et
vous le trouvez convaincant quand il est sous le maillot de la Hollande?
Plus, bah oui, parce qu'il joue dans l'axe. Donc il est décisif, il est heureux. Les joueurs qui sont autour de lui, peut-être aussi lui montrent qu'il est le leader technique et de l'équipe. Et finalement à Lyon, c'est pas le même joueur. On voit que c'est qu'il y a Dembélé, on voit qu'il y a Fekir, il y a d'autres joueurs qui ont pris ce leadership que lui aimerait bien avoir. Alors il le dit souvent. Qu'il aimerait peut-être évoluer dans une grande équipe. Peut-être là-dessus, il faudra qu'il travaille aussi, parce que dans les grandes équipes, il y a beaucoup d'ego et qu'il va falloir qu'il soit aussi meilleur.
Shérif, sous le maillot des Pays-Bas, il est moins irrégulier, il est plus régulier, Memphis Depay.
Disons qu'il est un peu plus régulier dans sa présence, dans son rôle un peu de leadership. Mais là, par exemple, contre l'Allemagne, il y a des moments où on le voit pas, Memphis Depay. C'est comme à Lyon. Il y a un vrai problème. Moi, ce qui me plaît dans Memphis Depay, c'est qu'à un moment, j'ai cru qu'il s'était perdu après Manchester United. Même à Lyon, il y a une période, j'étais pas très convaincu. Là, il est revenu. Il est là. Il est bien là. C'est une très bonne nouvelle. Mais voilà, c'est un peu c'est un peu le baromètre de cette équipe des Pays-Bas. Si c'est lui le leader, eh ben il y a encore du boulot dans l'équipe des Pays-Bas. Et quand on regarde avec Lyon, on l'a beaucoup fait. Enfin, il a joué numéro 9. Hein, Genesio l'a encore essayé cette année. Il lui manque une qualité pour être vraiment numéro 9. C'est la patience, de moins dézonner et accepter de plus peser. Quand on est avant centre dans la surface, dans la boîte. Alors que lui, il aime bien toucher beaucoup le ballon. Alors, c'est un sacrifice, être numéro 9, c'est toucher moins le ballon et de rester à coller entre les deux centraux, même si évidemment on peut se permettre des déplacements sur le côté. Mais à mon avis, il a un petit côté électron libre qui fait qu'il peut pas être entièrement numéro 9. Même si je pense qu'il a
jamais,
les qualités.
Ouais, mais ça n'a jamais été un numéro 9. Ça n'a jamais été un numéro 9. Quand c'est je dis qu'il joue 9. Dans l'axe, voilà. C'est qu'il joue avec quelqu'un. Ouais. Il y en a beaucoup des joueurs comme ça qui aiment bien avoir quelqu'un de fort, justement, qui.
L'avenir, c'est peut-être lui et Dembélé.
Mais
c'est.
Exactement.
En fait, on est d'accord. Mais alors, faut qu'ils jouent longtemps, faut qu'ils apprennent à se connaître bien.
Oui, et aussi, il faut que Genesio, il change son système de jeu. Et c'est,
peut-être
et ça,
aussi.
Avec
Fekir derrière.
C'est compliqué
derrière
parce qu'il y a deux problèmes à Lyon, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont tendance à
ne pas rester dans leur zone.
Fekir,
à aller soit
Fekir, partout. Ouais, ils sont partout.
Fekir est partout, Aouar est partout. Bertrand Traoré, bon, il est sur un côté. Et ensuite, il repique beaucoup. Et ensuite, il y a beaucoup de joueurs. Et Terrier, c'est pareil quand il joue. Et il y a beaucoup de joueurs, surtout, qui sont irréguliers. Et donc, qui donnent pas un, c'est-à-dire que Depay, même
tout
sans en faire beaucoup.
Au même moment, ça serait différent.
Si vous voulez, Depay, même quand il en fait pas beaucoup, il est pas le seul à pas en faire beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs sur courant alternatif dans cette équipe.
Il a été décevant contre le Barça.
Moi, je sais pas si c'est le management qui n'arrive pas à tirer le meilleur des joueurs ou si c'est le système. Ça, c'est autre chose.
Est-ce qu'il est mieux entouré dans l'équipe des Pays-Bas, alors, Patrick?
Pour moi, il a un rôle plus
parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, on parle de Francky De Jong, on parle de
justement, il joue un rôle de grand frère qui ne joue pas à Lyon. À Lyon, c'est plutôt Fekir qui est un Lyonnais pur sucre.
Mais avec les Pays-Bas.
Avec les Pays-Bas, il arrive mieux à jouer ce rôle. Ouais, absolument.
Ça lui convient mieux. Alors, c'est pas les seuls qui brillent dans cette équipe des Pays-Bas, Shérif.
Non, bien sûr. Mais pour en venir à Depay, quand il est là, il est vraiment bien là. Et là, tout ce coup, là, dans la dynamique, tout le monde le suit là. Et c'est vrai que quand
c'est
ils reviennent
à deux, qu'ils reviennent à deux.
Ouais, c'est tout à fait.
Alors les champions d'Europe en titre, eux, eh bien des habitués et des barrages. Hein, rappelons-le, parce que ils sont souvent qualifiés pour les grandes compétitions à l'arrache, et notamment en Bosnie. On se souvient, ils avaient souvent joué en Bosnie.
Un peu comme la Croatie.
C'est des barragistes. Hein, c'est spécialistes des barrages.
En tout cas, ils ont eu du mal en ces débuts d'éliminatoire. Ils n'ont pas fait mieux que deux matchs nuls dans leur Estádio da Luz. De Lisboa, de Lisbonne, et n'ont donc récolté que 2 points, 0-0 contre le Monténégro, et puis 1-1 contre la Serbie. Maintenant, on peut dire la Serbie de Tadic.
Ouais, qui a marqué sur le pénalty très tôt.
Ils sont en train de compter le Portugal sur les forfaits peut-être de l'Ukraine, pour remonter un petit peu au classement, puisque les Ukrainiens... Ils pourraient perdre 6 points sur tapis vert à cause d'un joueur qui était brésilien, mais que normalement on doit faire 5 ans dans un pays pour être naturalisé, alors que lui on en a fait un petit peu moins, donc voilà, c'est un peu
en
suspense.
Mm-hmm. Ouais, ça leur permettrait peut-être d'éviter les barrages.
Ouais, exactement.
Mais le Portugal, comment comprendre, on peut appeler ça des contre-performances, vous êtes d'accord? Contre le Monténégro 1-0-0,
Contre la Serbie,
la Serbie est plus accrocheuse, évidemment.
C'est pas honteux, mais contre le Monténégro, c'est une vraie contre-performance. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas vraiment leur place. Hein. On va mettre les pieds dans le plat. Mais
leur place.
Joueur comme Guedes, on voit pas ce qu'il fait en équipe nationale du Portugal. Bon, il a pas le niveau, il est pas bon, il est décevant de match en match.
Et plus leur place, vous pensez à qui? Des joueurs cadres déjà un peu
un peu vieillissant. Il y a des joueurs qui eux
pense
aussi
à Pépé, c'est ça,
exactement,
dans leur défense.
On peut penser à lui
directement. Ils ont de quoi. Je regarde un petit peu
Jelson Martins, on aimerait le voir plus, par contre.
Ouais, exactement. Et il y a des joueurs au Portugal qui commencent à montrer leur bout de leur nez, et pourquoi pas les voir dans l'équipe. Alors après, est-ce que
ils ont la chance d'avoir au moins Bernardo Silva, Guerrero, qui sont quand même là des grands joueurs.
Ça, c'est du solide.
Et puis ils ont quand même Cristiano Ronaldo.
Cristiano
Ronaldo, il a pas fait le deuxième match.
Quand il est là, il doit choisir.
Le problème, c'était aussi peut-être contre le Monténégro où
il n'était pas là
justement. Il leur manque quand il est pas là, et là il a joué que 30 minutes. Sorti prématurément, blessé, on l'a vu. Alors, il court, il s'arrête, il fait le geste immédiatement du remplacement.
Mais il a fait une déclaration rassurante, il a dit « on va peut-être l'entendre ».
Voilà, Patrick.
J'ai tout anticipé.
Vous avez anticipé, mais nous aussi.
Voyons comment ma blessure évolue demain, dans les prochaines 45 heures. Je ne suis pas inquiet car je connais parfaitement mon corps. C'est le football, ces choses peuvent arriver. Je suis détendu, je sais que tout ira bien dans une ou deux semaines, pas de problème.
Frédéric Piquioni connaît bien son corps, il s'est arrêté tout de suite.
34 ans, 3 ans.
Ça veut dire, non mais surtout on le voit, on sait qu'il se maintient bien, qu'il est rarement blessé en fait, Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que le 10 avril prochain,
il devrait être là, il va être là.
Contre l'Ajax,
il va être là, il a déjà commencé ses soins.
Non mais quand il dit 45 heures, c'est 45 heures, c'est un ordinateur dans la tête.
Ça nous a beaucoup amusé parce que c'était pas 48, d'habitude on dit on le saura dans 24 heures, 48 heures, non lui c'est 45.
J'ai une pointe au quatrième quadriceps,
il sait très bien où il est. Où est-ce qu'il faut faire les soins en tout cas.
L'ordinateur de bord fonctionne bien.
C'est ça.
Donc on le verra jouer contre l'Ajax Amsterdam. Allez, prenons le large et allons du côté des Antilles.
pas qu'à trouver. Loin de nous te douter. En qui j'en le mettre secret.
Nous sommes donc en Martinique et la Martinique.
Il manque le ponce, hein.
Mais c'est à la sortie, ça.
Ah d'accord.
Peut pas être avant.
C'est gentil.
À ce temps-là, le soleil se couche.
La Martinique, donc. Alors là, par contre, là-bas, le soleil se, enfin, est déjà levé. Ben, hein, mais
ah oui,
on
oui,
a
oui,
quoi,
oui,
non, non. 5 heures, 5, oui. 5, 6 heures de, ouais, de décalage.
Il est 11 heures, ouais, du
coup. Voilà. La Martinique, donc, une des îles des Antilles françaises, tout près, eh bien, de Cuba et de toutes ces îles paradisiaques, en tout cas pour ce qui est de leurs plages et de leurs eaux souvent cristalline et très claire. La Martinique, pour ce qui est du ballon, sera à nouveau de l'aventure. La compétition des Amériques du Nord, et donc Amérique centrale et Caraïbes, les Martiniquais se sont qualifiés aux dépens des Guadeloupéens. C'était au cours du week-end. Ils les ont battus sur le score de 1-0. Et nous allons écouter l'ambiance dans les vestiaires. Alors, on s'est permis de prendre ce que vous aviez enregistré dans les vestiaires, Frédéric Picon, vous qui êtes le manager général de cette équipe.
Qui crie derrière, c'est Fortuné, Kevin Fortuné.
Ah oui,
c'est lui qui fait.
Hey,
exactement, c'est lui.
Alors, le buteur s'appelle Wesley Jovelo.
D'Ajaccio. Ouais. Du Gazélec d'Ajaccio.
Exact. Ouais. Et il a, c'est lui qui a donc marqué ce but. Racontez-nous un peu cette aventure, parce que ça va être la sixième fois, c'est ça, que la
ça
Martinique.
Ça va être la sixième fois que la Martinique participe. Moi, j'en ai fait une en 2013, lorsque j'étais encore joueur et aux États-Unis.
On mais peut jouer en équipe aventure. De France et en équipe de Martinique.
Bah, c'est une loi qui a été changée il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a une belle affaire avec Malouda
et oui.
Sur la dernière Gold Cup et la Guyane. Donc, et on se souvient bien aussi que Jocelyn Angloma avait participé à cette Gold Cup et ils avaient été jusqu'en demi-finale en 2007.
Non, mais on a Gérard Piquet qui est catalan et qui joue pour l'équipe de Catalogne et l'équipe d'Espagne.
Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Nous, on fait partie de la CONCACAF, on fait pas partie de la FIFA. Donc, ils ont changé un petit peu les lois, et aujourd'hui, si on a effectué des matchs amicaux avec l'équipe de France, on peut participer à la sélection de Martinique. Par contre, si on a participé à des Coupes du Monde, à des compétitions internationales, on ne peut plus.
Alors, cette Gold Cup se déroule donc, concerne notamment les pays qui sont qualifiés chaque année de droit, que sont les États-Unis, le Mexique et le Canada. Notamment, États-Unis et Mexique qui ont gagné à eux de 16 Gold Cup. Oui, oui, vous dites. Mais est-ce que la Martinique peut avoir l'ambition de remporter ce trophée, ou c'est vraiment trop compliqué pour une
non,
sélection régionale?
C'est jamais compliqué, parce que même la dernière compétition à la Gold Cup, les États-Unis, ils avaient d'abord fait jouer, on va dire, une équipe bis, hein, pour essayer de se qualifier. Et nous, on avait fait un super match. Hein, on était tombé dans le groupe des États-Unis. Et ça s'est. Et en fait, à chaque fois, on mérite, mais on passe pas de très très peu, parce qu'il nous manque un petit peu cette rigueur technique, tactique qui nous fait défaut. Même si on a un groupe aujourd'hui qui a un peu plus mature, qui a connu 3 compétitions et un gros noyau de joueurs locaux, plus après des petits ajustements sur des joueurs pros.
Patrick,
mais les États-Unis, ils ont l'avantage d'avoir l'équipe toute l'année et de faire d'autres compétitions que la Gold Cup. Ils font des éliminatoires Coupe du Monde, ils font des matchs amicaux, des matchs en zone CONCACAF. Ouais. Ces équipes des Outre-mer, comme la Martinique, elles n'ont que cette compétition-là. Elles ont moins de possibilités de se régler, et souvent les joueurs se découvrent un peu au dernier moment. Ils ne peuvent pas avoir autant d'automatisme que les États-Unis, qui en plus, malgré tout, sur la durée, travaillent bien.
Ou le Mexique.
C'est devenu une vraie équipe solide, avec des bons joueurs, un joueur comme Pulisic.
Qui n'était pas à la dernière Coupe du Monde, quand même. Souvenons-nous.
Mais c'est rare, quand même.
Ouais. Frédéric Picon, vous vous êtes qualifié aux dépens de la Guadeloupe. C'était un derby.
Les Guada Boys.
Exactement. C'est vrai, c'était un gros derby, mais finalement, comme je l'avais dit à Luc Sonor, qui m'a tout de suite appelé pour me féliciter, je lui ai dit que finalement, finalement, il y a eu de l'ambiance, mais pas plus que ça. On avait l'impression qu'ils étaient déjà assez résignés, et nous, on est parti en mission. C'était une mission d'aller là-bas pour se qualifier, d'une part pour la Gold Cup et d'autre part pour la Lyon A. Et on est tombé, et on tombe dans le groupe où peut-être que l'année prochaine, on pourrait recevoir le Mexique ou les États-Unis en Martinique. Donc ça, déjà aussi, c'est une belle récompense pour un groupe et un sélectionneur qui est en place depuis un an à peu près.
Qui s'appelle ?
Mario Boccali.
D'accord.
Est-ce qu'il a un lien avec Gary Boccali ?
Exactement, c'est son neveu.
Ah d'accord.
C'est son petit neveu.
Cette compétition, ça se déroulera cet été au moment de la Copa América et de toutes ces compétitions continentales.
Du 15 juin au 7 juillet, la compétition démarra aux États-Unis. Alors on ne sait pas trop où on va jouer, si ce sera côte est ou côte ouest pour l'instant. Mais on attend le tirage au sort avec impatience d'ici deux semaines.
Mmh. Bon, bah alors on vous suivra avec cette équipe de Martinique, Frédéric Piquion. Les Antilles, on se disait en préparant l'émission, c'est un vivier de joueurs. Il y en a beaucoup qui ont été en équipe de France. On peut les citer, Marius Trésor, Gérard Janvion. Alors ça, c'était dans les années, fin des années 70, début 80. Ensuite, il y a eu évidemment Thierry Henry, Lilian Thuram.
Beaucoup. Hein.
Voilà. justement.
Thomas Lemar, Raphaël Varane.
Jocelyn Angloma.
Jocelyn Angloma, oui. Il y en a, et qui est le sélectionneur de la Guadeloupe. Il y en a plein, énormément.
Ouais.
Les Venturam, ouais.
Pourquoi, selon vous, ce vivier? C'est la Comment passion de la pratique du football là-bas?
Il y a une grosse passion, oui, autour du football.
Les Antilles françaises sont très sportives.
C'est aussi
le vivier de l'athlétisme.
Du basket, du hand.
Le seul petit truc, c'est ces dernières années, en fait, les Antilles, entre guillemets, fournissent moins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'Antillais métropolitains. Mm-hmm. Mais au niveau des Antilles, il y a une petite crise. C'est pas la crise, le marasme ou quoi que ce soit, c'est tout, mais il y a un peu moins de joueurs qui viennent des Antilles et qui viennent réussir en France que plutôt les Antillais, fils d'Antillais qui sont nés en métropole. Donc là, au niveau du réservoir, il y a des petits problèmes.
Ouais, parce que le club pro, ils viennent plus non plus. Là, ils reviennent un petit peu plus parce que justement, ils voient que il y a un fort potentiel, mais après, il faut dire que les infrastructures et etc. là-bas, c'est compliqué. Donc, soit ils partent à 13, 14 ans parce qu'il faut faire une formation.
Former.
Mais sinon, après, c'est un peu compliqué.
Voilà.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est que l'écart est en train de se creuser. Là où dans les années 70, 80, bon, finalement, les clubs français n'avaient pas atteint, il n'y avait pas eu toutes les organisations d'événements, l'Euro, la Coupe du Monde, ils n'avaient pas atteint le niveau de développement en matière de détection des jeunes, en matière de formation, qu'ils ont atteint aujourd'hui, qui font que la France est un des deux, trois pays qui forment le mieux dans le monde, on peut le dire.
Le pays.
Autant au niveau des résultats des clubs, on n'est pas dans les deux, trois meilleurs, autant en formation des jeunes, on l'est.
Formation détection.
Et donc, l'écart s'est creusé avec les Antilles, qui devraient, maintenant, il faut essayer de combler ça, et c'est un peu le défi qui revient à des gens comme Frédéric et à d'autres.
Exactement.
Qui font le lien un peu entre des joueurs qui ont réussi ici en France, dans
utile.
Les clubs pro et les territoires. Et c'est bien qu'ils fassent ce travail-là.
Vous avez eu l'impression que vous avez entreaperçu un futur Lilian Thuram ou un futur Thierry Henry quand vous, par exemple, dans ce match entre Martinique
entre les deux équipes.
Guadeloupe.
Non, mais je sais qu'on a des joueurs locaux qui auraient pu faire une carrière professionnelle. Et je pense notamment à Parsemin, à Kevin qui a essayé, qui est parti à Seattle après qui est revenu en France. Je l'avais aidé un petit peu à faire des essais à droite à gauche, mais qui a été formé au Mans d'ailleurs à l'époque, mais ça a été compliqué.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup Frédéric Piquion. On a terminé sur une note plus exotique, plus tropicale, ce Radio Foot International qu'on avait commencé au Burundi. Merci aussi Shérif et Patrick. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurent Salerno qui était à la réalisation. On vous dit à